France Culture, Quentin Lafay.
Dans les débats parlementaires de ces dernières semaines, il y a des amendements proposés, défendus, qui annoncent les prochains terrains de la bataille politique et culturelle. Exemple, celui déposé par le député Rassemblement National de la Somme, Mathias Renault, qui voulait supprimer le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Bien que rejeté, cet amendement assumait de dénoncer l'argent, je cite, « gaspillé dans une vaste entreprise de propagande » que serait le CNC. Mais alors que le financement du cinéma français était une fierté nationale, un sujet politiquement consensuel, pourquoi le CNC est-il dans le viseur de l'extrême droite? Un invité ce soir pour nous éclairer, Laurent Creton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'économie du cinéma, auteur de cet ouvrage intitulé « Économie du cinéma, perspective stratégique au pluriel », une réédition. Armand Collin est à mes côtés comme chaque mercredi, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Est-ce que c'est une tradition, Laurent Creton, de s'attaquer au CNC d'une manière budgétaire, idéologique? Est-ce que c'est une tradition qui appartient à l'extrême droite ou bien il y a dans le champ politique une volonté plus profonde d'attaquer ce monument du cinéma français?
D'abord, ce n'est pas une tradition. La tradition, c'est d'être intelligent et d'avoir réussi à comprendre à quel point la réussite, qui est grande, du secteur cinématographique en France se fonde sur des entrepreneurs, sur des talents, des techniciens, sur un engagement, une passion du cinéma, mais également par des instances de régulation. Le CNC a été créé en 1946 et qui n'a cessé depuis lors de se perfectionner, de prendre en compte les nouveaux défis, les évolutions sectorielles du cinéma, mais aussi de la télévision, de la vidéo à la demande, du streaming, pour penser les conditions d'une régulation. Donc, ce qui est la tradition est de très longue date. Quelles que soient les options politiques, c'est de considérer que c'est très pertinent.
Bon, mais si je vous posais la question, Laurent Creton, c'est parce que vous nous disiez avant d'entamer cette discussion que le RN n'était pas seul dans les attaques qui étaient adressées au CNC, que d'autres partis politiques français avaient eu, non pas cette tradition, mais du moins cette volonté d'affichage depuis plusieurs années.
Je ne crois pas que cela puisse venir de partis ou bien de partis qui n'auraient pas pris le temps de réfléchir. Quelques individus, par commodité, par paresse, par opportunisme, peuvent utiliser ce thème qui est commode parce que finalement, le cinéma, tout le monde le connaît, tout le monde y est allé, tout le monde a une opinion et se pense fondé à être capable d'en comprendre les ressorts profonds. Si bien que, de temps à autre, des énoncés opportunistes apparaissent dans les médias, donne lieu à quelques débats et tout cela disparaît ensuite.
Si tout le monde va au cinéma, le financement du cinéma, lui, en revanche, est plus opaque pour le citoyen lambda. Julien Bisson.
Oui, en relisant cet amendement proposé par ce député Rassemblement National, il explique ceci, je le cite, « Le rendement prévisionnel des taxes qui lui sont affectées au CNC s'élève à 846 557 000 euros dans le projet de loi de finances 2026 et viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle. » Alors, on va parler ensuite du versant idéologique, mais déjà du versant des taxes, ces fameuses taxes qui lui sont affectées. C'est quoi ces taxes dont on parle? C'est de l'impôt? C'est de l'argent public?
Pas du tout. Dire l'argent des Français, c'est laisser entendre, n'est-ce pas, que les contributions en termes d'impôts serviraient à cela, alors que précisément, le modèle qui a été créé dans les années 40 est un modèle de régulation qui repose sur une idée simple. Prélever sur le ticket de cinéma une faible proportion, 10%, qui va aider à financer les prochains films. Et au-delà, il faut le comprendre, la réussite de cette politique, ce n'est pas simplement d'investir dans la production, mais également dans les industries techniques, également dans la distribution. Et surtout, et je voudrais y insister, dans les salles de cinéma, de pouvoir disposer d'un parc de salles diversifié, pertinent, de proximité, qui joue un rôle clé dans la réussite et dans l'indice de fréquentation dont la France bénéficie, qui est le plus élevé du monde actuellement.
Donc concrètement, aujourd'hui, le CNC est financé essentiellement par ces taxes sur les tickets de cinéma,
ou est-ce qu'il y a d'autres formes? C'était l'origine et l'intelligence du dispositif, c'est de dire que ça peut être appliqué à tout acteur économique qui va utiliser le cinéma et l'audiovisuel pour dégager de l'activité, du chiffre d'affaires, et en l'amenant à comprendre qu'il serait pertinent d'avoir une sorte d'arrangement, de négociation. Alors ça s'est fait avec la télévision, dans les années 80, dans un antagonisme premier qui a été dépassé au profit d'une logique de coopération et de négociation. Les chaînes de télévision sont devenues les principaux financiers du cinéma français et au-delà, européen, en contrepartie d'obligations, d'engagements en matière d'investissement dans les films que je viens de citer. Mais ça a été vrai ensuite avec la vidéo. Et maintenant, avec la vidéo à la demande par abonnement, c'est-à-dire les sociétés de streaming, Disney+, Netflix, Amazon, Paramount, et c'est très intéressant de voir que, alors que ces géants transnationaux pouvaient imposer un rapport de force qui semblait insupportable, la négociation s'est faite parce que ces grandes sociétés ont compris qu'il était de leur intérêt, pour être présent sur ce très beau marché, de jouer le jeu, qui est un jeu en fait intelligent en ce sens qu'il vise à valoriser le film de cinéma, bien sûr lors de sa sortie en salle, qui est indispensable, cruciale pour créer la valeur symbolique, qui ensuite donnera de la valeur économique sur tous les autres marchés.
Donc d'un mot très court, Laurent Creton, l'argent du CNC, ce n'est pas l'argent des Français ?
C'est, par exemple, Netflix apporter de l'argent et les streamers y apportent de plus en plus. Ce n'est pas l'argent des Français.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du Rassemblement National. Il était ce matin l'invité de la grande matinale de France Inter.
La rencontre entre un film et son public est forcément un critère de financement. Forcément. J'ai pas dit que c'était le seul. Moraliser les aides financières du CNC. C'était ça notre volonté. Je vous donne un exemple d'un amendement très précis. Un film dans lequel quelqu'un peut bénéficier d'un cachet supérieur à 500 1000 euros, est-ce qu'il a besoin d'une aide effective du CNC et de l'État et de l'argent public derrière ? C'est un débat qu'on peut ouvrir. Moi, je suis pour des aides sélectives, je ne suis pas pour des aides automatiques. Je pense que des films doivent rencontrer un public, je pense que des aides doivent permettre de faire émerger des jeunes auteurs, réalisateurs, etc. Je pense qu'il y a plusieurs critères. Jamais nous n'entrons dans la ligne éditoriale que peut avoir un film, enfin si on peut parler de ligne éditoriale pour un film, ou en tous les cas la sensibilité.
Deux arguments mis en lumière par Sébastien Chenu, Laurent Creton. Commençons tout naturellement par le premier, financer des films en fonction du nombre d'entrées que celui-ci pourrait faire. Est-ce que cela a du sens ?
La base de l'économie du cinéma et de la culture, c'est le principe d'incertitude. Il est très difficile de savoir, auriez-vous pu anticiper que le film Un petit truc en plus, l'année dernière, fasse 10 millions d'entrées. Et chaque année, il y a des situations comme celle-ci, pendant que des films très financés, très marketés, avec quelques acteurs et actrices vedettes, ne parviennent pas à s'extraire de la difficulté majeure pour la plupart des films, c'est-à-dire la difficulté à exister, à rencontrer le public. Donc il y a d'abord un facteur d'incertitude, et en général, les personnes qui ne connaissent pas le sujet se disent « mais il suffirait d'investir dans les films qui marchent », ce qui n'a aucun sens, puisqu'on ne peut le savoir qu'à posteriori. Et deuxième idée, la possibilité de produire un certain nombre de films, notamment des premiers et de deuxièmes films, qui représentent plus de la moitié de la production des films français, relève d'une logique de recherche et développement pour l'ensemble du secteur et au-delà.
Deuxième argument, Julien Bisson.
Laurent Creton, qu'est-ce qu'on peut penser de l'idée d'interdire le financement du CNC dès lors qu'un des acteurs du film touchera un cachet de plus de 500 000 euros ?
Alors d'abord, ça entretient l'argument qu'on avait déjà entendu par le passé, d'une représentation du cinéma peuplée de personnes très fortunées, abusant du système, ayant des revenus indécents. Cette réalité, elle est infinitésimale. Peut-être qu'un petit nombre de personnes peuvent bénéficier de cela, mais ça produit une représentation tout à fait faussée d'un secteur d'activité où beaucoup de personnes sont engagées fortement dans leur métier, ont de niveaux de rémunération relativement modestes et ont à faire face à la précarité. Donc bon. Je trouve que c'est malvenu. Et ensuite, la question de la régulation par les normes, il est, par exemple, si on veut faire appel à telle actrice ou acteur vedette international, ça peut être une logique de prix de marché. Alors après, on peut discuter ce prix de marché, ou bien de se dire, après tout, on pourrait faire appel à d'autres actrices et à d'autres acteurs.
On peut distinguer, Laurent Creton, le prix de marché, c'est-à-dire la nécessité, entre guillemets, de payer une actrice, un acteur 500 000 euros ou plus, et faire appel ou non avec cet argent à l'argent, entre guillemets, du CNC. Est-ce qu'on peut distinguer les deux, même si la proportion des films concernés, vous l'avez dit, est infinitésimale?
Disons qu'il y a deux optiques qui pourraient être retenues. La première, c'est de réguler, mais à ce moment-là, il faut rentrer dans le détail des rémunérations de bien d'autres personnes. Et c'est déjà le cas, puisqu'il y a des grilles de rémunération à la journée qui portent sur tous les techniciens, etc. Et un deuxième élément qui serait d'être capable de faire confiance aux productrices et aux producteurs qui n'ont certainement pas le goût de surrémunérer un certain nombre d'acteurs. Mais en tout état de cause, compte tenu des risques lourds liés à toute sortie de film, la capacité à maîtriser le budget est plutôt une vertu.
Ça, c'est de ce côté-là, ce sont les arguments économiques. Il y a aussi une autre critique qui est la critique idéologique. Le CNC ne subventionnerait que des films idéologiquement orientés. Est-ce que c'est attesté? Est-ce qu'on peut déjà rappeler qui décide de soutenir un film? Comment sont motivées les décisions du CNC?
Des films orientés, pour le dire d'une manière plus directe, c'est-à-dire des films de gauche, très souvent.
Il y a des aides automatiques qui résultent de l'activité pendant une année d'un producteur, d'un distributeur, d'un exploitant, et qu'il pourra retrouver l'année suivante. C'est une sorte d'épargne et d'engagement et de soutien à l'investissement futur et à la modernisation. Et puis, des aides sélectives en fonction de la qualité de la politique et de l'identification d'éléments que l'on peut pousser. Et donc, la décision, j'allais dire, elle ne se fait pas sur des bases idéologiques, elle se fait sur les bases de la qualité d'un projet. Je rappelle que l'année dernière en France, sont sortis sur les écrans 734 films de long métrage agréés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a en France, c'est le pays du monde dans lequel la proposition de diversité est la plus large.
Qui décide, Laurent Creton, au sein même du CNC, de soutenir, de financer un film? Est-ce que le CNC est une instance démocratique? Quel est son fonctionnement interne?
Alors d'abord, il n'y a pas que le CNC. Et qu'évidemment, les régions, les chaînes de télévision joueront un important rôle. Dans le cas du CNC, et c'est un des points très importants de la qualité de son fonctionnement. D'aucuns qui le connaîtraient mal se représenteraient une instance administrative lointaine. Pas du tout. Elle est composée de commissions qui sont constitués de professionnels venant de différents horizons, qui n'ont pas d'ailleurs tous le même avis, qui peuvent être concurrents, avoir des options différentes. Et c'est à l'issue de ce travail-là que les décisions sont prises de plutôt soutenir tel ou tel type de projet, même si nous savons que lire un scénario ne suffit pas pour avoir la représentation de ce que le film pourra être et a fortiori de sa rencontre du public.
Julien Bisson.
Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de réforme nécessaire dans ce système d'aide du CNC? Est-ce qu'il y a, ou est-ce que les critiques peuvent être audibles et il y a quand même des choses à penser?
D'abord, il est pleinement dans la responsabilité de l'Assemblée nationale et du Sénat que de porter attention à l'évaluation des politiques publiques, et depuis des années et de décennies, cela est fait. D'ailleurs, sont publiés régulièrement par l'Assemblée nationale et le Sénat des rapports remarquablement bien constitués sur la base d'auditions et qui ne manquent pas de recommander des évolutions, des progrès. Quant au CNC lui-même, ces dernières années, ces dernières décennies, il n'a cessé de se remettre en cause, de pouvoir appréhender de nouveaux sujets, de travailler sur la meilleure manière d'utiliser les ressources pour être utile. Donc, pour répondre à votre question, bien sûr que le CNC peut continuer à progresser et il va continuer à le faire.
À quel point le CNC est-il par ailleurs un outil de la démocratisation culturelle, un outil du soutien du maillage territorial en matière de cinéma, d'accès aux salles, d'accès aux films, de films indépendants et de salles indépendantes?
C'est un point très important, puisque je parlais du réseau de salles, caractérisé par sa diversité, sa proximité, sa présence en milieu rural, avec des cinémas itinérants, permettant d'avoir une proximité qui est réelle. Deuxièmement, si je prends ce qu'on appelle la population cinématographique, les personnes qui, pendant l'année, sont allées au cinéma au moins une fois, c'est 65%, qui est un niveau très élevé par rapport à d'autres pays dans le monde. Et il est important aussi de rappeler que la salle de cinéma est le lieu dans lequel peuvent se retrouver des personnes ayant des opinions différentes, ayant des sensibilités, des cultures, des niveaux de revenus, des âges différents. C'est un lieu de brassage. Cela a été et c'est toujours le cas. Et je pense que c'est très utile par rapport aux questions démocratiques que nous nous posons.
Julien Bisson.
Est-ce que le CNC est aussi un outil de souveraineté culturelle dont la disparition ferait pâtir l'image de la France ?
D'abord, c'est une référence dans le monde entier, en Europe bien sûr, mais je prends le cas de la Corée du Sud qui a montré une stratégie industrielle particulièrement réussie en s'inspirant largement de ce modèle, c'est-à-dire, oui, le marché, bien sûr, des entrepreneurs, mais la possibilité de l'organiser et de créer les conditions pour que une industrie, une création puisse se développer et s'affirmer. Et s'affirmer non seulement dans son propre pays et dans le monde. La deuxième chose à dire, c'est que le CNC et ses systèmes de régulation ne portent pas que sur la production française, mais il y a de très nombreuses coproductions. Et la France sera présent aux Oscars avec le film iranien Un simple accident, montrant, et les exemples sont très nombreux, que l'influence, la possibilité pour un pays de rayonner par sa culture passe par le cinéma, par les festivals, et dans ce domaine, les résultats sont remarquables.
Je voudrais que l'on mentionne, Laurent Creton, la façon dont le paysage qui permet d'accompagner, de financer le cinéma français se transforme en profondeur, à travers trois acteurs, les régions pour commencer, les chaînes ensuite, les plateformes enfin. Les régions, vous les avez mentionnées, à quel point sont-elles des actrices absolument indispensables aujourd'hui du financement du cinéma français ?
D'abord parce que les régions, mais aussi les départements, mais aussi les municipalités, en créant un festival, en le développant, ont parfaitement compris à quel point le cinéma a de grandes vertus. C'est-à-dire à la fois une dimension artistique exigeante, à la fois permettant de fédérer largement, de donner une visibilité. Et donc, il y a une dimension de politique culturelle pour les régions, où avec finalement des ressources qui ne sont pas très élevées, on arrive à produire un impact en termes d'image qui est élevé. Ça veut dire l'image de la région, ça veut dire l'attractivité, mais ça veut dire aussi les emplois et les activités induites. Donc les régions ont tout à fait intérêt, et elles l'ont bien compris, et cela permet, disons, d'accroître encore l'attractivité des régions et de la France dans son ensemble pour les tournages.
Les chaînes maintenant, c'est là que se situe le bouleversement le plus profond et le bouleversement le plus politique également.
Oui, avec la chaîne qui a longtemps été le premier banquier du cinéma. En avril dernier, Canal+ a confirmé qu'elle resterait le premier banquier du cinéma avec 480 millions d'euros au minimum investi jusqu'à la fin 2027, répartis 150 millions d'euros en 2025, 160 en 2026, 170 en 2027. C'est toutefois inférieur à ce qu'elle a pu faire par le passé, 200 millions par an. Est-ce que là, ça veut dire qu'il y a une forme de désinvestissement des chaînes dans le financement du cinéma français ?
Depuis quelques années, je parle des autres chaînes, celles qui vivent de la publicité, ont eu tendance à réduire la programmation des films de cinéma en prime time et de façon générale en raison d'un ratio moins favorable en termes d'audience, de fidélisation. Donc ça veut dire que les chaînes de télévision pourraient être à certains égards moins intéressées qu'elles ne le furent par ces investissements. Mais il n'en demeure pas moins, et c'est pour moi l'élément majeur, qu'elles restent des partenaires essentiels du cinéma, qu'elles continuent à y investir largement, vous avez cité Canal+, mais également les autres chaînes, également France Télévisions, c'est-à-dire c'est tout un ensemble de chaînes, mais les producteurs et productrices de cinéma ont bien compris qu'il était important de diversifier les sources de financement.
Bon, mais venons-en tout de même, Laurent Creton, aux évolutions. Canal+ a acquis, il y a quelques semaines, 34% du réseau UGC. Mi-mai, cette fois-ci, la holding familiale de l'armateur franco-libanais Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, qui est entré dans le groupe pâté de Jérôme Sédoux. Qu'est-ce que cela pose comme question? Est-ce qu'il y a un risque, j'allais dire, de concentration trop forte dans ce secteur du cinéma?
Dès qu'il y a un mouvement de concentration, on a raison d'être vigilant, d'essayer d'en comprendre les logiques. Lorsque l'annonce a été faite de ce rapprochement que Canal+ et UGC, ma première réaction a été de considérer que depuis des années, autour de Gaumont, de Pathé, du GC, c'est-à-dire des majors de l'exploitation cinématographique, des fonds de pension, des investisseurs étrangers tournaient. Et il me semble important pour UGC, mais pour l'ensemble de l'exploitation cinématographique française, d'être attentif à maintenir une structure de capital nationale. Deuxièmement, cela veut dire aussi que même pour Pathé, structure plus puissante financièrement et commercialement, il a été nécessaire à un moment donné, dans la perspective de continuer à être ambitieux pour financer des films, tels que Le Comte de Monte Cristo, moderniser des salles, de pouvoir s'adosser sur un groupe puissant. Donc c'est un problème très courant pour ce type de sujet, c'est-à-dire que pour que un secteur d'activité se porte bien, il est important qu'il y ait des petites structures, des sociétés innovantes et qui apportent du renouveau. Mais c'est également des structures plus puissantes qui, par leur réussite, garantissent une pérennité, mais aussi un équilibre global du système. Tout l'enjeu, c'est de créer les conditions de l'équilibre pour que les uns ne l'emporte pas sur les autres.
Mais si je puis me permettre, Laurent Creton, Canal+ n'est pas un fonds d'investissement neutre et californien. C'est une chaîne de télévision détenue par Vincent Bolloré, dont on connaît les velléités et les volontés politiques. Ce n'est pas la même chose lorsque ce type d'acteur entre au capital du GC.
Dans tous les cas de figure, il faut être vigilant. Il n'en demeure pas
ce
moins.
Ce n'est pas qu'un sujet économique, je veux dire.
Non, bien sûr, cela prend une dimension politique que l'on ne peut ignorer. Mais il peut être intéressant de considérer la distinction entre l'influence idéologique sur l'information et ce qui se passe dans le domaine de la création, où les investisseurs n'auraient sans doute pas intérêt à produire des effets sur la ligne éditoriale dans un secteur d'activité caractérisé par la diversité et le pluralisme.
Julien Bisson.
Derniers grands acteurs de cette économie du cinéma français, ce sont les plateformes, les grandes plateformes américaines. En quoi est-ce que leur arrivée a bouleversé le paysage actuel?
Alors c'est une arrivée d'il y a quelques années avec la multiplication des abonnés à toutes ces plateformes. Il en est des dizaines, mais quelques-unes qui dominent le marché, qui sont principalement nord-américaines et qui jouent un rôle très structurant. Ce que l'on peut dire, c'est que dans un premier temps, les salles de cinéma ont pu s'inquiéter, mais en définitive, la concurrence la plus frontale, c'est entre ces streamers et puis les chaînes de télévision traditionnelles, y compris Canal+, qui doit garantir la pérennité de son modèle économique, ou des sociétés telles que TF1 ou M6 qui ont créé TF1+ et M6+. Cela veut dire que le streaming est une réalité qui s'est installée sur le marché, que les acteurs installés, qui sont puissants, créent les conditions pour ne pas passer à côté de ce marché-là, tout en considérant que la télévision, disons, linéaire, si elle perd, disons, une partie de son audience, continue à être majoritaire dans la pratique télévisuelle.
Si j'en reviens, Laurent Creton, en quelques mots au CNC et aux attaques qu'il subit présentement, est-ce que vous êtes, j'allais dire, surpris de la temporalité politique de ce moment où ces attaques viennent tenter de frapper le CNC?
Je l'interprète surtout par rapport au contexte politique très singulier que nous vivons, où à l'Assemblée nationale se multiplient les courses à l'échalote, des propositions, disons, opportunistes et non réfléchies, et la faiblesse des arguments présentés montre bien à quel point, pour moi, c'est surtout une opération de communication, puisque cet amendement a été retiré et qu'évidemment, chacun pouvait comprendre qu'il le serait.
Merci beaucoup Laurent Creton. Et que peut-on trouver, Julien Bisson, si l'on se procure l'hebdomadaire Le 1 cette semaine ?
Eh bien cette semaine, qui est la semaine du Black Friday, on se demande pourquoi aimons-nous tant acheter. On explore la société de surconsommation qui nous amène à multiplier les objets plutôt que peut-être d'aller au cinéma par exemple.
Passionnant, merci beaucoup à vous deux et merci également à celles et ceux qui ont pensé, imaginé cette émission à mes côtés. Bruno Barada, Bertie Bourdon, Rodi Eken, à la réalisation, Léa Racine.